Sophie Desrosiers pour un article qu'elle a écrit dans ce numéro 58 de la revue Technique et Culture. C'est une revue éditée par la Maison des Sciences de l'Homme et qui a pour titre « Objet irremplaçable ». Sophie Desrosiers, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on a peut-être envie de vous demander pour commencer ce que c'est qu'un objet irremplaçable. Ça a l'air un peu compliqué à définir, bien que vous soyez ethnologue. Et par ailleurs, on parlera aussi des tissages en daim, puisque c'est votre spécialité et que vous avez écrit un article dans cette revue.
Oui, ce numéro de Technique et Culture provient en fait d'un colloque qui a eu lieu à Marseille en mai 2011 et qui a réuni à la fois des archéologues, des historiens et des anthropologues sur ce thème de l'objet irremplaçable. Alors à la suite du colloque, au départ, le questionnement était sur les dimensions irremplaçables des objets et des pratiques matérielles et leur intérêt pour comprendre la vie sociale. Et en fait, il a résulté que la plupart des interventions partaient dans tous les sens parce que c'est un objet qui a des facettes multiples qu'on peut voir comme il y a beaucoup d'adjectifs qu'on pourrait mettre à la place d'irremplaçable mais qui sont pas tout à fait pareils, comme substituable, singulier, imitable, nécessaire, indispensable, présent ou absent. Il y a un foisonnement de catégories et des pluralités de mécanismes qui interviennent, qui font que c'était finalement très riche. Oui. Mais en même temps, de mon point de vue, j'ai trouvé qu'on était arrivé à une non-définition presque de l'irremplaçable, mais des quantités d'exemples qui concernaient surtout des sociétés non occidentales, mais qui, sauf s'il y a un historien qui avait parlé du Moyen-Âge, des reliques au Moyen-Âge, finalement, beaucoup de présentations que d'une façon ou d'une autre, des types d'objets qui souvent sont en rapport avec des individus ou les remplacent, mais que justement, on peut dans nos sociétés regarder.
Avec un peu de recul.
Oui, mais presque de la même façon, comme justement les reliques, qui sont des objets qui représentent les corps. Même, c'est presque matérialisé, dans la tête des gens qui apprécient ces reliques. C'est le corps du Christ dans le suaire de Turin.
Tous les os qui se promènent dans tous les...
Oui, et en particulier les textiles aussi qui servent d'enveloppe pour les ossements ou qui ont enveloppé les corps saints. Je parlais du suaire du Christ, mais le suaire du Christ, on en a plusieurs. Oui. Alors peut-être qu'il en avait plusieurs qui étaient superposés, c'est pas impossible. Mais voilà. Donc, c'était un colloque vraiment extrêmement riche et les papiers qui ont été écrits à la suite ont été réorganisé en deux parties. Une partie qui concerne donc ces sociétés, la vision que ces propres sociétés ont sur les objets qu'ils jugent irremplaçables, pourquoi, comment, quel type d'objet. Et puis il y a une deuxième partie qui est plutôt l'utilisation qu'ont les archéologues, les historiens, les anthropologues, enfin les scientifiques qui se penchent sur ces objets et sur ces pratiques matérielles, objets matériels, quelquefois aussi des objets immatériels comme les savoirs. Et bon, à ce moment-là, on peut se référer aussi à tout ce que l'UNESCO considère aujourd'hui comme des savoirs
immatériels,
du patrimoine immatériel de l'humanité. Et justement, il y a au Pérou une communauté de tisserands dans l'île de Taquile, au milieu du lac Titicaca, qui a été classée comme patrimoine immatériel de l'humanité pour son tissage, pour ses activités textiles qui sont tout à fait d'une grande qualité, à la fois matérielle et esthétique, et au niveau aussi des savoirs.
Oui, de la transmission de savoirs.
Voilà.
Très précis, si j'ai bien compris votre texte.
Et surtout absolument fascinant, parce que on arrive à retrouver leurs traces il y a plus de 2000 ans.
Oui, vous dites qu'on a trouvé dans des endroits funéraires des tissages qui avaient été conservés à cause du climat très sec.
Oui, le Pérou et puis des pays limitrophes, mais enfin surtout le Pérou, le nord du Chili aussi, sont des régions où la côte, qui est assez étroite, a un climat désertique qui permet une très bonne conservation du matériel organique. Et en plus, dans les parties désertiques, non cultivées par les communautés d'agriculteurs qui s'étaient installées dans le long des rivières qui venaient des hautes terres, ils ont installé leurs cimetières donc en dehors des zones cultivées, et donc dans des zones qui n'ont pas été trop troublées, on a retrouvé des milliers, et on retrouve encore des milliers de textiles qui peuvent dater d'il y a 5000 ans, comme beaucoup on retrouve sur la côte sud du Pérou, qui datent du premier millénaire avant Jésus-Christ et qui sont dans un état de conservation absolument extraordinaire. Il y a eu une exposition au musée du Quai Branly au printemps de l'année 2008, sur des broderies de manteaux, de grandes pièces qui étaient brodées et qui provenaient de la péninsule de Paracas, sur la côte du Pérou, la côte sud, au sud de Lima. Et on avait l'impression, enfin les tissus sont encore dans une souplesse et surtout avec des coloris absolument extraordinaires. Mais non seulement ils sont bien conservés, mais en plus ils apportent la preuve d'une maîtrise de la fibre, du travail de la fibre, du travail aussi de la teinture, tout à fait exceptionnelle, et aussi qui le thème sur lequel porte le plus mon travail, de tous les savoirs mathématiques, logiques, qui sont nécessaires pour pouvoir les fabriquer. Et ces savoirs que j'ai été observer dans les Andes aujourd'hui, puisque à 2000 ans de distance, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus rien ou presque rien sur la côte. Et les savoirs textiles ont été conservés dans les hautes terres, dans des communautés de paysans qui vivent dans des vallées un peu isolées.
Au Pérou et
en Bolivie.
Alors
moi, j'ai été en Bolivie, dans la région de Sucre, chez les Halka, et où j'ai appris à tisser, où j'ai essayé de comprendre la complexité de ces pièces absolument extraordinaires. Et c'est véritablement d'une très grande complexité. Ça implique, d'une part, des logiques qui sont les mêmes, des logiques nécessaires pour organiser les fils, qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour organiser les hommes dans la société. Donc, on est obligé, pour faire un tissu, avec des fils de chaîne tendus sur le métier, des fils de tram qu'on passe entre ces fils de chaîne. On est obligé d'avoir des rythmes, d'avoir des comptages réguliers, parce qu'autrement c'est n'importe quoi, c'est pas solide, ça ne tient pas. Et puis c'est aussi pour la possibilité de fabriquer avec une certaine rapidité. Parce que quand on fait n'importe quoi, il faut chaque fois qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Si on a un rythme et une régularité, finalement, on a quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. On n'a pas besoin de réfléchir entre chaque comptage de fil sous lesquels on va passer la trame pour matérialiser cette... opération qui est matérielle et en même temps intellectuelle.
Et puis les couleurs aussi.
Ah oui, oui.
C'est quelque chose de très important. On ne tisse pas avec n'importe quelle couleur.
Non, chaque groupe et même chaque communauté a ses couleurs, une façon de gérer ses couleurs. Alors, ce qu'il y a de tout à fait intéressant, bon, moi je travaille, vous l'avez compris, à la fois avec les textiles archéologiques et les textiles et les pratiques ethnographiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve, alors ce ne sont pas les mêmes couleurs, mais la façon d'organiser ces couleurs, les principes aussi sont tout à fait observable et décrivable, mais on peut les décrire, mais surtout ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les broderies paracas, donc d'il y a 2000 ans.
Oui.
Ce qui veut dire que ces savoirs existaient déjà il y a 2000 ans et même probablement plusieurs siècles avant, puisqu'il y a 2000 ans, les quelques exemples qui ont été conservés sur la côte de ces tissus qui ont probablement été importés, ou en tout cas qui sont arrivés tissés par des tisserands des hautes terres, sont déjà à un stade de complexité élevé. Donc ça veut dire qu'il y avait probablement plusieurs siècles de pratique derrière pour en arriver à ce niveau-là. Donc, comparant les pratiques. Alors, ce qui est très intéressant avec le textile, comme je disais tout à l'heure, avant chaque passage de tram, la tisserande compte les fils pour faire le tissu et pour faire bien souvent aussi un dessin. Et à chaque fois qu'elle a fini une sélection, elle passe la tram et cette tram va mémoriser tout le travail matériel et intellectuel qui a été fait pour sélectionner ces fils. Et donc, on peut utiliser les textiles anciens comme une source qui nous révèle toutes les opérations matérielles et intellectuelles qui ont été nécessaires pour les produire. Donc, on peut, à partir de là, comparer des textiles très anciens avec des pièces actuelles et surtout avec les pratiques actuelles qui nous donnent la clé, qui nous permettent de comprendre comment est-ce que certains traits sont révélateurs de la façon d'ourdir les fils sur le métier. Enfin, il y a toute un code à apprendre, à comprendre. Et ensuite, il suffit de regarder les textiles archéologiques vieux de quelquefois 2000 ans pour pouvoir reconstituer une partie, pas tout bien sûr, mais une partie de ces savoirs. Et à ce moment-là, montrer les relations qu'il y a entre des groupes humains qui sont très très distants dans le temps et d'une certaine façon dans l'espace, parce que je pense que... enfin, en tout cas, une partie de ces textiles ont été, une fois que les modèles sont arrivés des Hautes-Terres, ont été imités sur la côte. Et justement, ces fameuses broderies paracas que beaucoup d'entre nous ont admirées, regardées avec des yeux éblouis au printemps 2008, certains qui ont des décors qu'on appelle linéaires, de style linéaire, en fait, sont des imitations de ces tissus qui sont tissés aujourd'hui encore dans les Hautes-Terres. de leurs ancêtres, en tout oui. cas, de, des tissus qui étaient tissés il y a 2000 ans avec les mêmes techniques, les mêmes savoirs, et mais qui n'ont pas été conservés puisqu'ils ont été tissés dans les hautes terres. Il y en a, pour le moment, j'en ai trouvé 3 qui sont arrivés sur la côte et qui montrent que ces tissus existaient à l'époque. Mais à travers les imitations qui en ont été faites, on peut reconstituer les modèles et retisser tout ce qui a n'a pas été conservé, tout le passé décomposé de ces pratiques de tissage.
Alors, les dessins aussi, vous avez des photos dans votre article pour montrer comment il y a adéquation entre de très anciens tissus, tissages, et puis des tissages contemporains où on retrouve les mêmes oiseaux, les mêmes...
Oui, alors ce qui joue là, bon, ce sont dans cet article, ce sont surtout des exemples, bon, qui viennent de oui. broderies paracas. Donc, en broderie normalement, avec un fil, c'est comme écrire à la surface d'un tissu. On peut très bien broder au fil de l'aiguille et tracer une ligne qui soit mmh. arrondie. On peut faire beaucoup de choses différentes. Hein. Au Moyen-Âge, il y a même eu certaines broderies qu'on appelait des peintures à l'aiguille qui étaient tellement précises qu'elles permettaient d'imiter des tableaux. On peut faire vraiment... la limite, c'est le savoir-faire de la brodeuse, mais on peut vraiment faire des dessins, des vraies peintures, quoi, en broderie. Et dans le cas de Paracas, ce qui est intéressant, c'est que pour ces broderies linéaires, ils ont travaillé au point compté. C'est une autre forme de broderie qui tient compte de la toile de support. Et on va compter les points pour qu'ils aient, par rapport à la toile de support, pour qu'ils aient tous la même longueur, qu'ils soient tous parallèles. Et au bout du compte, finalement, eh bien, on obtient un textile dont l'apparence extérieure est exactement la même que celle d'un tissu.
Oui, absolument. Donc, c'est ce que j'avais remarqué dans les photos que vous donnez, oui.
Voilà. Donc, à partir de cette constatation, on peut, en regardant, en essayant de comprendre comment ont été faites ces broderies, on peut arriver à reconstituer beaucoup de textiles qui n'ont pas été conservés parce qu'ils ont été tissés dans les hautes terres, dans des régions humides, où bon, l'humidité, les changements de température font que les matières organiques ne sont pas conservées. Donc, c'est en fait... un espèce de jeu de reconstruction. Les archéologues ne se basent que sur... Bon, mais commencent aussi beaucoup à se baser sur l'absence des objets, dans la mesure où ils laissent des traces de leur absence. Et là, ben, pratiquement, c'est le même raisonnement de reconstruire le passé à partir des imitations qui en ont été faites et qui ont été conservées sur la côte. Et donc, reconstruire tout ce que... Tout le passé de ces textiles qui, pendant très longtemps, n'ont pas été considérés comme comme des objets intéressants, comme des objets dignes d'être appréciés.
Irremplaçables.
Oui, parce que on les jugeait grossiers. Enfin, j'ai des textes de spécialistes au milieu ou dans le troisième quart du XXe siècle qui portent des jugements mais terribles sur les textiles, le tissage dans les hautes terres du Pérou. Très très négatif, c'est grossier, c'est inintéressant. Bon, ça dépend.
Il y a un bon racisme qui sous-tend ce genre de jugement, probablement.
Oui, et un racisme, je pense surtout que les gens ne voient que, enfin, nous ne voyons, pas seulement moi aussi, nous ne voyons que ce que nous sommes, ce que nous avons appris à voir. Et ces textiles, en l'occurrence, la personne à laquelle je pense, c'était une spécialiste des tissus précolombiens. On lui a demandé d'écrire quelque chose sur les textiles ethnographiques et elle a absolument pas vu le lien qu'il y avait entre les deux mondes et elle ne s'est tenue qu'au côté esthétique et à la qualité superficielle des objets.
Oui.
Parce que, en plus, bon, ce sont des textiles, justement, qui sont faits avec des logiques mathématiques, et donc les dessins sont assez géométriques dans leur forme. Ce ne sont pas des formes très réalistes. Dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas. Bon, dans certains cas, oui, ça peut être des formes réalistes, mais dans beaucoup de cas, la façon de compter les fils fait que le dessin sort très géométrique. Et ça, oui, c'est pas du tout dans l'esthétique.
Mais c'est très contemporain comme,
aujourd'hui,
comme
oui.
Art, oui.
Oui, aujourd'hui, oui, mais il y a 50 ans ou 60 ans.
On trouvait que c'était primitif.
Oui, mais de la même façon que les Espagnols ont porté quand ils sont arrivés là-bas au XVIe siècle, ils ont porté des jugements très négatifs sur le même genre de textile. Mmh. On reproduit les mêmes choses qu'il y a 5 siècles.
Alors, Sophie Desrosiers, il y a une chose qui m'intrigue là dans ce que vous venez de dire. Vous avez dit on ne peut pas tisser si on n'a pas en tête l'organisation sociale dans laquelle on vit.
C'est je dirais pas les choses de cette façon-là.
Alors dites-le à votre façon d'ethnologue.
Je dirais plutôt qu'une petite fille qui apprend à tisser applique pour construire ses premiers tissus et même par la suite tout le reste des logiques, des principes qui sont les mêmes que ceux qui sont utilisés dans l'organisation de sa communauté. Mmh. C'est-à-dire beaucoup de principes dualistes entre le haut et le bas, le masculin et le féminin, la gauche et la droite.
Le bien et le mal.
Pas comme chez nous, en tout cas. et surtout, bon, quand on sélectionne les fils, ils sont de couleurs différentes et ils marchent toujours par paires. C'est-à-dire, par exemple, là où je travaillais, c'était très souvent, ça c'était un signe des Ralka, très souvent les dessins étaient faits avec des fils rouges et noirs. Et donc une paire de fils, un rouge et un noir, qui étaient montés ensemble sur le métier à tisser, était une paire du début jusqu'à la fin. Quand on prend un fil rouge de cette paire pour faire le dessin, on laisse tomber sur l'envers le fil noir qui appartient à la même paire. Et réciproquement, si on prend un fil noir, on laisse tomber le fil rouge. Si bien qu'au bout du compte, on a sur l'aiguille...
Oui, on a un dessin inversé, donc. Ouais,
exactement. Oui. Donc, ça permet de faire... Mmh. Ce principe permet d'avoir des tissus qui n'ont pas d'envers. L'autre face a un dessin symétrique avec des couleurs opposées. Mmh. Hein. Et donc, le dualisme se manifeste, se concrétise hein, dans la matérialité des tissus. Une chose très importante aussi, quand j'ai commencé à travailler sur les textiles des Andes, je trouvais que moi qui avais l'habitude de travailler sur les soirées lyonnaises,
évidemment, c'était autre chose.
J'ai trouvé que j'ai dû l'écrire quand même quelques fois qu'ils avaient vraiment un métier extrêmement simple, rudimentaire même. J'ai dû employer le mot quelques fois, un mot que je n'utiliserai plus du tout aujourd'hui parce que c'est le métier le plus élaboré qu'on puisse imaginer pour l'objectif qu'ils ont, qui est de faire un tissu avec 4 lisières. Parce qu'un tissu, c'est un être vivant et qui doit être fini, terminé.
Bordé.
4 lisières bordées, exactement. Et quand on va faire une pièce de vêtement ou n'importe quel autre objet, un sac pour transporter des feuilles de coca ou bien un sac pour mettre la récolte, un grand sac à ce moment-là, il aura aussi 4 lisières. On va le plier, le coudre. On va plier la pièce de tissu et la coudre sur les côtés. On va assembler des pièces pour faire un châle ou une robe, mais on va jamais les couper. Mm. Donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement fort, hein, extrêmement important dans les Andes pour les tisserands, pour les paysans qui utilisent ces tissus. Et de ce fait-là, on ne peut pas imaginer un métier à tisser plus élaboré que celui qu'ils ont. Donc, parce qu'on ne peut pas, nous, dans notre système de métier à tisser avec des marches, avec un peigne, avec des rendes lisses, on est obligé de couper les fils pour les rentrer dans le métier à tisser. Le métier à tisser préexiste. Et on va rentrer les fils dedans pour que le métier travaille.
Oui.
Dans ce système-là, le métier n'existe pas, ce sont des bouts de bois. Et c'est par l'ourdissage, c'est-à-dire le montage des fils entre les barres du métier, que le métier va exister. Du coup, on peut tisser depuis tout à fait le début jusqu'à la fin sans avoir à couper aucun fil. Hein. On obtiendra un tissu à quatre lisières. Alors aujourd'hui, où le tourisme s'est beaucoup développé, où les touristes aujourd'hui apprécient les tissus des Andes, veulent rapporter des souvenirs, mais ils ne connaissent pas les règles, enfin comment ça fonctionne. Hein. Et ils cherchent bien souvent à avoir les prix les plus bas et souvent même ils discutent le prix pour l'avoir encore plus bas que ce qu'on leur propose. Et du coup, les tisserands commencent à mettre en brèche leurs principes parce que cela prend beaucoup de temps de terminer un tissu à quatre lisières. Les dernières trames, il faut les passer à l'aiguille comme une sorte de reprise. Ils ont beaucoup mieux c'est beaucoup plus rentable économiquement de faire des pièces beaucoup plus longues qu'ils coupent en plusieurs morceaux. Et après, ils font des espèces de petites broderies sur les bords pour cacher le fait qu'ils ont coupé les fils.
Mais je sais pas, difficile de couper quand...
Il faudrait que je leur pose la question, mais en même temps, c'est pas pour eux. Ils continuent pour eux à faire des tissus avec quatre lisières.
Alors, il y a une photo aussi où vous disiez, c'est très simple comme métier à tisser. Il y a une photo où vous montrez une petite fille qui est assise par terre et qui, j'ai l'impression, a les fils qui partent de sa chaussure ou de ses doigts de pied.
Oui, de son doigt de pied.
Oui.
Oui, tout à
donc
fait.
C'est vraiment plus simple, on ne peut pas.
Non, on ne peut pas imaginer plus simple.
Et elle est
je
en
pense.
Apprentissage.
Oui, elle expérimente, elle essaye de faire des petites bandes pour un chapeau. C'est au niveau de l'outil, il n'y a presque pas d'outils. Il y a quand même un petit système, il y a des fils, un rendu lisse, une boucle qui lui permettent de sélectionner les fils. Oui. Mais même la chaîne, les fils de chaîne sont tendus entre son orteil et sa main gauche et elle tisse avec la main droite. Donc même au niveau de la tension, c'est son corps qui sert de métier à tisser.
Je vous rappelle que notre invitée était Sophie Desrosiers pour ce numéro 58 de la revue Technique et Culture avec pour titre Objet irremplaçable. Alors vous avez eu un exemple avec ce qu'elle nous a raconté de ces tissages andins qui font partie du patrimoine à la fois immatériel et matériel. Merci.
Merci à vous.